En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La conscience humaine, dont la véritable nature demeure encore inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de colloque organisée par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces réflexions peuvent être inhérentes à plusieurs domaines qui vont de la science à la philosophie en passant par la théologie. Canal Academy vous propose d'écouter ce deuxième colloque portant sur les états modifiés de conscience. 6 conférences au total sont retransmises sur notre site. Retrouvez dès maintenant l'intervention « Neurosciences et états modifiés de conscience » par Pierre-Marie Liédo, membre de l'Académie européenne des sciences, directeur du laboratoire de recherche Perception et mémoire à l'Institut Pasteur et du laboratoire Gènes, Synapses et Connexions du CNRS. Il s'intéressait ici dans son intervention aux neurosciences et états modifiés de conscience. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le fichier PDF qui accompagne les propos de Pierre-Marie Liédo. Ce diaporama est disponible à la fin de l'article.
Tout d'abord, je tiens à remercier les membres de cette association Être Humain, particulièrement Madame Bérénice Tournefond, les professeurs François Gros et François Théré. Je tiens également à remercier, sans qui probablement je ne serais pas ici aujourd'hui, le professeur Pierre Buzer pour son indéfectible soutien. Et je vais profiter donc de cette occasion qui m'est fournie. Finalement, je suis très honoré de venir ici vous apporter quelques éléments de discussion qui sont en fait empruntés dans la science en action, puisque je dirige deux laboratoires, l'un qui s'appelle Perception et mémoire, basé à l'Institut Pasteur, et l'autre, Gènes et conscience, donc qui est placé plutôt sous l'égide du CNRS. Puis je suis professeur à Harvard, où je m'intéresse à l'interface cerveau-machine. Donc vous allez voir que on va rester dans le débat qui consiste à parler des états modifiés de la conscience. Alors, en guise d'introduction, Madame Bonnefond, lors d'une précédente rencontre, avait cité Karl Marx. Et elle avait dit, ou il avait dit plutôt, que les philosophes de tout temps avaient cherché à interpréter le monde, mais que la société allait évoluer vers non plus une simple interprétation, mais une transformation. Et en fait, c'est l'axe central de mon exposé aujourd'hui. Je vais vous montrer que cet aphorisme de Karl Marx est en fait juste aujourd'hui, puisque nous rentrons de plein pied dans l'ère d'une troisième transformation pour l'humanité. Je vous rappelle, la première transformation qui a changé radicalement l'humanité, c'est lorsque nous arrivons à maîtriser, ou tout au moins à transformer, puisque je reste dans l'ère de la transformation de la matière en énergie, le feu, la lampe à huile. Deuxième transformation énorme pour notre société, elle est beaucoup plus récente, c'est la transformation de cette énergie en travail, grâce à la machine. Troisième transformation, qui est le propre de mon intervention aujourd'hui, c'est la transformation de la pensée en action. Mais en dehors du système nerveux périphérique, en dehors des muscles. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une ère où nous pouvons, à distance, agir. Alors, on a entendu parler des tordeurs de cuillère ce matin, etc. Je ne fais pas appel à ce genre de constat, même s'il existe, je ne veux pas le dénigrer. Mais je vais vous montrer comment la science peut apporter des lois qui, justement, nous permettent, à partir de l'observation expérimentale, d'être aujourd'hui rentrés dans cette transformation qui est celle donc de la pensée en action. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, c'est parce que on est parti d'un constat qui est le suivant. Cet organe, environ 1300-1400 cm3, quel que soit l'âge du sujet, est un organe éminemment plastique, capable de s'auto-configurer en fonction de l'état interne du sujet, mais aussi en fonction de l'environnement dans lequel ce sujet évolue. Et donc ça, c'est un nouveau dogme, je dirais presque central aujourd'hui en neurobiologie, c'est de montrer que cet organe n'est pas figé. Donc l'analogie complètement erronée du cerveau et de la machine, par exemple. Le cerveau de l'homme a cette particularité-là d'être extrêmement malléable et d'où on va voir finalement l'apprentissage s'inscrire physiquement dans nos circuits et modifier ces circuits-là. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont quelques exemples qui illustrent que ces états de conscience peuvent être modifiées en fonction de cette fameuse plasticité. Et au fur et à mesure que je vous parle de plasticité, je pense maintenant à aussi un aphorisme de ce fameux écrivain humaniste et théologien néerlandais, Erasmus Rotterdamus, qui avait dit « On ne naît pas être humain, mais on le devient ». Donc ça, c'est pour faire un clin d'œil aussi à votre association. « On ne naît pas être humain, on le devient », ou Kant avait dit « Nous naissons deux fois, le jour de notre naissance biologique, et ensuite nous renaissons par l'instruction ». C'est exactement le centre de mon propos ici, c'est de montrer les traces que vont laisser cette instruction, cet apprentissage, ce qu'appelait le sociologue Bourdieu l'habitus. Donc on va voir un petit peu, si vous voulez, les traces concrètes que vont laisser cet environnement sur ce cerveau. Alors, pour gagner du temps, je vais essayer d'atteindre ces trois objectifs. Rapidement, le premier objectif sera d'ordre historique. Pour savoir où l'on va, il faut toujours regarder d'où l'on vient. Ensuite, je vous parlerai de la genèse, c'est-à-dire comment ce cerveau se construit et surtout, eh bien, quelles ont été les pierres qui lui ont permis de se construire. Et l'on verra les différents états modifiés de conscience et quelles sont les applications concrètes. Alors, dans l'aperçu, historique, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous dit que nous évoluons dans une société dite de l'information. Depuis le début de notre civilisation, que l'on peut, disons arbitrairement, placer au moment de l'invention de l'écriture, soit 5500 ans. De 5500 ans jusqu'au tournant du 21e siècle, les spécialistes s'accordent à dire que nous avons produit 5 exabytes. Alors, comme on a l'habitude de manipuler les bytes plutôt sous forme de gigabytes, je vous dirais que 5 exabytes, ça représente 5 milliards de gigabytes depuis l'origine de la civilisation jusqu'au tournant du 21e siècle. Maintenant, si l'on regarde, depuis 2003 jusqu'à 2010, nous avons produit cette même quantité d'informations, non plus sur un espace donc de 7500 ans, mais en 2 jours. Et les spécialistes s'accordent à dire que en 2013, nous produirons la même quantité d'informations en 10 minutes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour un chercheur, nous devons rester modestes et non plus se concentrer sur ce que l'on sait. Il faut regarder au-delà des faits. Et l'on doit plutôt se poser les questions sur ce que nous ignorons. D'où l'intérêt d'une rencontre comme celle-ci, où je me suis absolument délecté et en tout cas instruit par les questions posées par d'autres champs, d'autres disciplines, d'autres approches théologiques ou scientifiques. Et donc c'est vraiment important de prendre connaissance de cette idée que nous sommes rentrés de plein pied dans une société de l'information où il faut savoir plutôt se concentrer sur ce que nous ignorons. Alors, quand on se concentre un petit peu sur ce que nous ignorons, on s'aperçoit bien qu'il existe des neuromythes. J'appelle les neuromythes, ce sont les mythes que l'on a inventés. Alors pour les philosophes, vous savez, je fais appel là à l'école de Protagoras, et c'est donc le sophisme, où l'on a imaginé que des coachs, les coachs de l'époque, allaient pouvoir enseigner du prêt-à-penser sans chercher vraiment à comprendre ou quels sont les mécanismes, voyez? Et donc, quand on utilise cette approche, eh bien, vous avez, dans l'opinion publique, ces mythes. Ce sont des neuromythes. Ils ne sont certainement pas étayés par la science. Alors, puisque le sujet sont les états modifiés de la conscience, eh bien, je vais prendre un neuromythe. Nous aurions un cerveau droit et un cerveau gauche. Certains seraient plus à même de travailler avec leur cerveau droit, les artistes, et puis les adeptes du rationalisme auraient le cerveau gauche très développé. On vous vend même des méthodes d'apprentissage pour faire travailler votre cerveau droit parce qu'à l'école, on l'a négligé, etc. Sophisme. C'est-à-dire, c'est du prêt-à-penser qui n'est certainement pas basé sur des faits scientifiques. Alors, puisqu'on doit parler d'états modifiés de la conscience, je vais vous raconter cette histoire au tournant des années 70, quand des neurochirurgiens ont voulu, pour traiter des patients atteints d'épilepsie de façon récurrente et qui étaient récalcitrantes à tout traitement par voie médicamenteuse, avaient décidé d'intervenir et de couper, une espèce d'autoroute qui relie l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Cette autoroute s'appelle le corps calleux, mais peu importe. Donc, si un foyer épileptique démarrait dans l'hémisphère gauche, eh bien, puisque ces individus avaient ce corps calleux sectionné, l'hémisphère droit restait intact. Et donc la personne, même si elle déclenchait une crise, pouvait rester toujours au volant de la voiture, chercher à se garer et récupérer. Donc on a eu, dans les années 70, des individus, pour la première fois au monde, ayant un cerveau gauche et un cerveau droit, pour le fait, là, complètement autonome. Pourquoi ça en est devenu un neuromythe? Eh bien, parce que on s'est rendu compte par des tests psychologiques qu'il existait deux individus vivant sous la même boîte crânienne. Lorsque l'on projetait sur un écran le mot « visage » sur la droite, alors il y a deux prérequis à connaître pour comprendre ce que je vais vous dire. Le premier prérequis, c'est que tout ce qui se projette à droite de votre champ visuel viendra sur l'hémisphère gauche, ça croise, et puis donc ce qui est à gauche viendra à droite. Deuxième prérequis, l'aire du langage est à gauche. Donc maintenant, lorsque l'on projette sur un écran le mot « visage », on demande aux personnes de nous faire un compte-rendu verbal. Elles trouvent le test extrêmement facile et elles sourient, elles vous disent « visage ». Puis, vous projetez maintenant à gauche le terme « visage » pour une autre cohorte de personnes ayant subi cette section du corps calleux. Vous projetez à gauche le mot « visage » et vous leur demandez de vous faire un compte-rendu verbal de ce qu'elles voient. Elles ne voient rien. Par contre, vous leur demandez de dessiner quelque chose. La première chose qui leur viendra à l'esprit, c'est un visage. Un peu plus fort. Vous projetez sur le même écran un manoir. Sur une des fenêtres à gauche, il y a une fumée épaisse et des flammes qui sortent. Et vous dites donc au sujet que vous voulez tester de vous faire un compte-rendu sur ce manoir en lui indiquant que ce manoir est à vendre et qu'il vaut que 10% de sa valeur marchande. Alors il va vous faire un compte-rendu extrêmement plaisant de ce manoir. Et il est beau, il y a des animaux sur la pelouse, etc. Et puis, vous lui demandez... Souhaitez-vous l'acquérir? Il est à vendre, il vaut pas cher. Et là, vous avez tous les stigmates, ce qu'on appelle les marqueurs somatiques de la peur, apparaître. La peau devient blanche, sudation, etc. Parce que le cerveau droit qui voit les flammes ne peut pas parler, puisque l'aire du langage initial est à gauche, et donc il n'y a pas de compte-rendu verbal, mais pourtant l'individu est conscient de ces flammes, mais il ne peut pas relater de son état de conscience. Donc vous voyez ici, deux individus qui vont lutter. Et ces individus, dans un supermarché, ils sont en face des paquets de lessive, par exemple, et ils vont rester une demi-heure. Parce que l'un va dire « je prends ça », et l'autre va dire « non, je prends pas ça ». Et ils resteront dans un conflit, puisque là, il y a les processus de prise de décision qui sont complètement perturbés, puisque deux individus vivent sous le même toit. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'émergence de cette conscience qui nous permet tous les jours de choisir la bonne lessive. Il faut savoir que cette histoire, c'est une double histoire. C'est l'histoire, pardon, d'une espèce, on l'a entendu tout à l'heure, l'histoire d'une espèce qui d'ailleurs, c'est intéressant, a été chassée de sa niche écologique par deux réchauffements climatiques. Donc vous voyez, il faut pas trop s'alarmer aujourd'hui quand on nous dit qu'il y a un réchauffement climatique. C'est parce qu'il y a eu des changements d'une forêt luxuriante où tout pouvait être pris à portée de main vers donc une forêt vierge qui s'est transformée en une savane aride et donc... L'Homo habilis a dû inventer la marche, il s'est trouvé bipède, et de cet Homo erectus, il a quitté, ensuite, c'est l'histoire de Yves Coppens, qui a quitté donc la corne de l'Afrique pour partir sur l'Asie. Et ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je vous interpelle là maintenant sur ce fait-là, c'est que cet Homo erectus est devenu un aventurier. D'où cette idée que le cerveau est en fait nourri en permanence de la nouveauté. Vous voyez, ce qui peut-être est le plus violent pour notre cerveau, c'est de s'inscrire dans la routine. Donc, on va avoir un Homo sapiens qui va être en fait un aventurier et on va retrouver, si vous voulez, dans cette conquête-là, différentes strates. Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure sur l'évolution, justement, des différents circuits qui vont permettre une certaine forme d'émergence de la conscience. Et puis, vous avez une autre histoire qui n'est pas celle de l'espèce, mais qui est celle du sujet. Dès la conception... Jusqu'à finalement, on pensait que ce cerveau allait se stabiliser aux environs de 20 ans. Il allait y avoir deux grands épisodes, celui à la naissance, où le nombre de contacts entre les neurones augmentait, et puis ensuite il y avait une élimination de ces circuits aberrants, Et puis un deuxième orage qui était en fait autour de la puberté, où l'on avait également des contacts excessifs qui allaient ensuite être éliminés. Bien, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que de cette construction hiérarchique des circuits, on va voir émerger différentes formes de conscience avec des niveaux donc de complexité croissants. Par de la molécule jusqu'au neurone, on va arriver au circuit. Donc quand on a un neurone tout seul, on ne peut pas, on a beau faire toutes les expériences que l'on veut, on ne peut pas voir émerger des formes plus ou moins simples de conscience. Par contre, dès l'instant où nous sommes sur des circuits, des dizaines de neurones travaillant ensemble, on va voir chez les invertébrés des formes de conscience qui vont être essentiellement liées à la vie sociale de ces animaux-là. Donc les invertébrés vont privilégier l'idée que chaque individu est un clone et que c'est l'ensemble qui doit agir. Par exemple, une ruche va faire que si la température extérieure diminue, les animaux vont s'agréger pour qu'au cœur de cet amas d'abeilles, la reine pourra garder une température de 37 degrés. Donc vous avez ici, finalement, l'émergence du cerveau dit social. Nous allons choisir une autre stratégie chez les vertébrés. Les vertébrés vont avoir donc au cours de l'évolution d'autres complexités qui vont faire qu'il va y avoir émergence d'autres consciences que j'aimerais maintenant pouvoir développer. En gros, trois types de consciences que l'on trouve dans la littérature en neurosciences. Une conscience dite minimale, car elle repose sur un simple fait, c'est celui de la mémoire, dite mémoire de travail. Ensuite, nous avons une conscience de base qui, elle, repose en plus de cette mémoire de travail. Donc vous voyez, nous allons rajouter toujours un niveau de complexité supérieur. En plus de cette mémoire de travail, nous allons ici trouver des organismes qui sont capables d'imiter et qui vont avoir une intention partagée. C'est par exemple le cas des nouveau-nés. Ensuite, nous allons avoir une conscience de soi. Cette conscience de soi va apparaître chez l'enfant de 2 ans, que l'on retrouve également chez les chimpanzés. Cette conscience du soi est importante parce que c'est l'émergence du concept du soi et du non-soi. Et enfin, nous avons le niveau 4 de conscience le plus élevé, c'est celui de la conscience réflexive, c'est-à-dire que c'est une conscience qui va reposer sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que je sais, que tu sais, que je sais. Alors, je vais maintenant élaborer justement sur cette conscience réflexive, quels sont les degrés, les formes de plasticité, c'est-à-dire que puisque nos circuits cérébraux sont appelés à être reconfigurés en permanence par notre activité mentale ou physique, nous allons voir aussi cette notion de conscience réflexive évoluer dans le temps, même pour un même sujet. Ici, on fait cet exemple, on prête des boules à des adultes entre 25 et 65 ans. Et ils doivent partir à la maison avec ces boules et jongler tous les jours pendant 10 minutes. On les invite à revenir nous voir et on s'aperçoit que 3 mois de jonglage a fait que l'on voit des structures qui vont être modifiées, donc des changements d'épaisseur. Et ces deux structures sont des structures engagées dans la vision et dans la motricité. Ce qui est assez intéressant, c'est que on demande aux personnes de poser les balles, de revenir nous voir de nouveau 3 mois plus tard, et on s'aperçoit que ces changements sont durables. On a refait la même chose avec des personnes âgées de plus de 75 ans, et on s'aperçoit également que le fait de partir et de jongler la maison pendant 3 mois fait que ce cerveau va se reconfigurer. Donc il n'y a pas d'âge pour voir ces circuits être reconfigurés et donc voir aussi des états mentaux qui vont pouvoir être transformés. Pourriez-vous dire, mais alors quelle est la durée la plus courte que l'on puisse imaginer pour changer nos circuits, voire donc nos états mentaux? C'est cette expérience. Nous avons fait une expérience durant 5 jours où nous invitons des participants à porter un masque et à les plonger dans l'obscurité pendant 5 jours et 5 nuits. À l'issue de cette expérience, on leur demande de mettre leurs mains dans une boîte et de nous faire une description précise de l'objet qui est à l'intérieur de cette boîte. Si vous voulez, on va essayer de voir la représentation mentale grâce à l'index de cet objet qui est à l'intérieur. Et on va définir une notion de seuil. Et on va s'apercevoir que 5 jours auront suffi pour que le seuil de ces personnes plongées dans l'obscurité soit amélioré. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est le doigt qui a été changé par le fait que ces personnes soient plongées dans l'obscurité pendant 5 jours et 5 nuits? On va s'apercevoir que lorsqu'ils touchent la cible avec leur doigt, leur cerveau est en train d'être recruté dans les régions qui sont normalement stimulés par la rétine. Donc là, il y a une notion de recyclage qui fait probablement écho avec ce que vous avez entendu ce matin, c'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui que les circuits dédiés dans telle et telle modalité peuvent être finalement détournés. Et que le fait d'avoir vécu pendant 5 jours et 5 nuits a fait que les stimulations tactiles de l'index, par exemple, maintenant stimulent les neurones qui devraient être engagés, stimulés par votre rétine. Donc, on appelle ceci la neuroplasticité intermodale, pardon. Ici, c'est la région qui normalement traite la vision. Eh bien, lorsqu'une personne aveugle lit en braille, on s'aperçoit qu'elle active cette région normalement engagée par la rétine. Lorsque une personne sourde voit devant elle une personne agiter ses mains, on s'aperçoit que cette région qui est en fait normalement dédiée à l'audition va être stimulée par le fait que l'on bouge nos mains devant cette personne. Ceci me conduit donc à vous parler de cette possibilité de transformer l'information qui normalement est gérée par différents circuits et transformer cette information, comme je vous l'ai dit depuis le début, pour que, selon vos souhaits, une machine puisse répondre à la commande. Alors, ceci est possible parce que des pionniers tels que Pierre Buser ont enregistré depuis les années 66, 70 et 80, ont enregistré l'activité électrique de différents circuits et ont décrit, si vous voulez, la pierre de Rosette, le code qui permet aux neurones de décharger des impulsions électriques et d'y voir derrière une intentionnalité. Ensuite, un peu plus tard, on a été capable d'améliorer les électrodes et surtout, en vert maintenant, à partir du singe, puisque dans ces premières époques, ce que faisaient ces pionniers, c'était d'enregistrer les neurones engagés dans une action. Par exemple, le singe voulant prendre sa banane, eh bien, on peut enregistrer l'activité électrique de ces neurones. Mais ensuite, ce qui est plus important, c'est ne pas uniquement d'enregistrer l'activité électrique, c'est de créer une boucle. C'est-à-dire que c'est ce qui a été cherché ici, en vert. Le singe a émis le souhait de prendre un verre d'eau. Et puis, ce verre d'eau, vous le faites bouger au fur et à mesure qu'il cherche à prendre la cible et vous allez pouvoir faire une boucle de façon à ce que l'animal réapprenne à penser et rechanger sa pensée pour atteindre la cible. Ça, c'est la fameuse boucle qui a été inventée là. Et depuis les années 2006, il y a maintenant une application directe en clinique humaine où des personnes atteintes d'accidents vasculaires cérébrales dans des régions clés qui permettent de traduire la pensée en action, ces régions étant détruites, eh bien, on peut maintenant faire en sorte que ces personnes peuvent utiliser leurs pensées pour qu'à distance, ils puissent faire bouger un robot. Alors, ce que je vais vous montrer sur cette diapositive, c'est un robot qui est placé à côté de ce singe. Il est placé pour des raisons de câble à 1 mètre, mais il pourrait être placé à 10 000 kilomètres. Ce singe voit une récompense qui lui est tendue ici, c'est un chamallow. Et sa main droite est immobilisée dans un tube. Ce que vous ne voyez pas, nous avons implanté des électrodes dans les circuits qui gèrent la motricité de cette main droite. Alors, il y a eu plusieurs années de travail. Comme l'animal s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger la main droite, eh bien, il a appris à repenser différemment pour qu'il prenne contrôle du bras roboïde qui est placé à côté de lui. Et vous allez voir la séquence où, par sa pensée, il va faire que ce bras peut se mouvoir et atteindre la cible, puis lui apporter la récompense. Et alors, en plus, on a bougé la cible pour montrer qu'il était capable de reconfigurer sa pensée. Je le montre une deuxième fois. Voilà, alors pourquoi je vous montre ces expériences? Parce que quand on a parlé tout à l'heure du niveau 4 de la conscience réflexive, en fait, là, vous voyez bien que il y a une dimension qui va être supplémentaire. C'est la dimension du soi, même si l'objet du soi maintenant est placé à distance. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle cette conscience subjective du soi, et qui devient extracorporel. Donc on est en train de modifier là des états de conscience. Alors vous allez me dire, quel est le statut de l'être humain, puisque là je vous montre des expériences sur le singe. Eh bien, pour le cas humain, voilà maintenant cet électricien qui malheureusement, après une fausse manip, s'est électrocuté les deux bras. Eh bien, on a pu lui implanter deux bras roboïdes, et ces bras peuvent se mouvoir parce que les nerfs pectoraux ont été connecté à cette machine. Et donc, par sa pensée, alors que ses nerfs devaient contrôler des muscles et ses muscles devant bouger les bras, eh bien, ses nerfs vont contrôler maintenant une machine. Et donc, ses bras, complètement artificiels, ont été incorporés au niveau du cerveau, du cortex de cette personne. Dernier exemple, qui est le plus récent, vous allez voir une tétraplégique, et cette tétraplégique va chercher par la pensée, alors elle est là, et vous voyez, par la pensée, elle peut faire que ce bras peut se mouvoir, peut se déplacer, elle va saisir la bouteille, vous voyez là, les électrodes sont implantées dans son cortex moteur, elle ne peut pas bouger les mains, suite à un accident au niveau du tronc cérébral, elle ne peut plus bouger son corps, mais par la pensée, voilà, elle prend la bouteille, une paille ici, vous pouvez me voir en même temps les mimiques, la difficulté pour penser, et vous voyez là par exemple, la pensée n'était pas bonne puisque le bras s'est éloigné, mais là elle va reconfigurer sa pensée, il lui reste à faire une rotation de 90 degrés maintenant, et elle va réussir. Alors bon, là le problème pour elle maintenant, c'est que la pensée était concentrée sur le bras, donc elle n'arrive pas à aspirer. Mais vous allez voir, après deux ou une minute probablement, alors vous voyez la boisson chocolatée au milieu de la paille, et vous allez voir, dès l'instant où elle va réussir et avoir la boisson, vous allez voir la joie de cette personne qui vient de réussir la tâche. Alors, je l'ai mis dans le cas des états modifiés de la conscience. Alors évidemment, il faut qu'elle repense maintenant à déposer la bouteille. Elle va se concentrer et elle va arriver à la poser sans la renverser. Et voilà. Donc, c'est la joie. Tout le monde applaudit. Et elle est heureuse. Voilà. Donc, là, on est vraiment au cœur du débat sur les états modifiés de la conscience. Parce que ce bras, chez cette dame, est incorporé dans son cerveau. C'est devenu une partie de son corps. Je dirais même, bon, on a ce fameux homonculus, c'est devenu la projection de ce bras dans ce cerveau est unique. Il n'y a plus pratiquement d'autres organes. Alors évidemment, certains s'étonnent, puisque, et je ne fais pas partie de ces gens-là, mais certains nous disent que là, nous sommes rentrés dans ce que l'on appelle l'ère du transhumanisme. C'est-à-dire que le destin de l'humanité n'appartient plus à l'espèce humaine, mais appartient à la machine. Parce que ce que je ne vous ai pas dit là, c'est que ces électrodes envoient des impulsions à des algorithmes et ce sont les ordinateurs qui calculent pour la personne. Et la personne, ce que je ne vous ai pas dit également, elle a travaillé pendant 5 ans et demi pour arriver à ça. Donc il a fallu qu'elle travaille avec la machine et que l'algorithme puisse être de mieux en mieux peaufiné. Et donc il y a eu ce travail et cette fusion de la machine dans le cerveau de la personne et qui s'exprime ensuite grâce au bras roboïde. Donc certains s'inquiètent, et j'en fais partie, de qu'est-ce que va être le futur de l'humanité si maintenant, finalement, notre pensée va être traitée par des ordinateurs qui vont ensuite donner les commandes aux machines. On peut s'alarmer puisque là, vous vous rappelez, Garry Kasparov, battu par ce fameux ordinateur de chez IBM, Deep Blue, Garry Kasparov, un des champions des échecs, avait perdu. Donc pour la première fois, la machine battait déjà l'espèce humaine en 97. On revient aux états modifiés de conscience. Quand on demande à des étudiants de passer leur tête dans un scanner et de regarder cette photo où cette personne vous regarde dans les yeux, et on fait une image moyenne, puis on regarde d'autres patients rentrent dans la machine et on leur demande de regarder maintenant plutôt cette image. Et on a une image moyenne. Puis ensuite, on va faire une soustraction. Ce que l'on voit apparaître par différence, eh bien, c'est qu'il existe une région que l'on appelle le striatum ventral, mais peu importe la région. Eh bien, cette région s'active automatiquement à l'insu de la personne quand on vous regarde dans les yeux. Donc, il existe sur le plan des états de conscience des phénomènes où il existe ces réponses automatiques. Et donc, c'est un peu, finalement, la trace ici d'une espèce d'inconscient subjectif où le fait que l'on vous regarde dans les yeux fasse que des circuits sont activés à votre insu. Alors, ça nous conduit évidemment à cette notion de percept et de concept que l'on a bien entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que notre cerveau est bombardé d'informations et il ne peut pas donner du sens à toute cette information. Donc, la plupart du temps, ce sont des informations qui vont donner lieu juste à des percepts, mais aucun concept. L'idée ici de dire, par exemple, voyez-vous une croix blanche ou une croix noire? Ici, voyez-vous un segment A plus grand que le segment B? Si je le laisse pas très longtemps et je l'enlève, vous serez enclin à dire que le segment A de gauche est plus grand que celui de B, parce que ce sont les réponses automatiques de votre cerveau. Quand il est dans cet état de conscience, je suis allé un peu plus vite, mais bon, donc quand votre cerveau émet ces oscillations de l'ordre de 20 à 30 Hz, eh bien, on sera enclin, dans ce cerveau automatique, à voir A beaucoup plus grand que B. Pourquoi ? Simplement parce que c'est le fruit de la nature, où lorsqu'on est par exemple dans une maison, on voit ce genre d'angle, et lorsqu'on est à l'extérieur, on voit ce genre d'angle. Et pourtant, c'est le même segment que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces réponses automatiques qui sont des réponses pour que les projections au niveau de notre cortex soient toujours à peu près de même taille. Autre exemple, quand on est dans un cerveau, dans une activité consciente réflexive, eh bien ces deux cercles, vous les voyez les mêmes parce que vous faites un effort mental de les rapprocher. J'ai fait un copier-coller avec mon ordinateur. Maintenant, si je change le contexte et que vous laissez l'activité mentale dite automatique, alors vous vous ferez avoir parce que vous penserez que le rond orange ici est plus petit que celui-ci. Vous voyez ? Donc, c'est deux états de conscience, automatique et réflexive. Alors, le mode automatique, quand est-ce qu'il existe ? Ben, quand le temps nous manque. C'est pour ça que je vous ai projeté une diapositive très rapidement. Quand la tension nous manque, si vous êtes fatigué, vous avez passé trois nuits blanches, vous serez à même d'être dans un état de conscience dit automatique. Lorsque nous sommes dans la routine, lorsque nous avons affaire au hasard, prenez une paire de dés, demandez à quelqu'un de la jeter en lui demandant « faites-moi la somme la plus élevée ». Vous verrez tout le monde faire ça. Vous ramassez la même paire de dés et vous appelez un autre comparse. Vous lui dites « je veux la somme la plus faible possible ». Vous avez vu ? Ça contre ça. Donc c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure rapidement, c'est le cerveau des croyances. Il vous fait croire que vous savez. Vous savez, par exemple, l'existence d'une loi physique qui relie la force, l'inertie du jet de dés avec le résultat final. Ça, c'est quand on est face au hasard. Quand le groupe est homogène, on a aussi tendance à penser dans cette conscience automatique. Vous voyez un petit peu. Alors, un exemple, et je vais terminer là. Nous avons montré, c'est la même diapositive, mais on a changé le contexte. Alors, on l'a appelé, pour certains, Maria De Angelo. Pour d'autres, on l'appelait Sarah Finkelstein, donc une Italienne, une juive askénaze d'Europe centrale, et ici, Kay O'Malley, une Irlandaise. Et on demandait aux gens, en leur présentant cette diapositive, et en leur laissant très rapidement la diapositive, de nous donner trois attributs. Trois. La beauté, l'intelligence et la motivation. Voilà les résultats. Si elle s'appelle Maria De Angelo, elle est notée 8 sur 10. Mais en intelligence, elle n'a que 3 sur 10. En somme, sois belle et tais-toi. Et en ambition, ça va, c'est la moyenne. Si par contre, elle s'appelle Sarah Finkelstein, le même visage, elle a que 3 sur 10. Mais alors en intelligence, qu'est-ce qu'elle est intelligente ? Et en ambition, qu'est-ce qu'elle en veut dans la vie ? Et vous avez l'Irlandaise, elle est moyenne partout. Vous voyez un petit peu ce vers quoi cet état de conscience automatique, quand on n'y fait pas attention, il vous fait croire, parce qu'on rigole, mais moi je rigole pas de voir l'amplitude finalement du jugement. Pour la même photo, l'idéal voudrait que sur la beauté on puisse s'exprimer sur une photo, certes, mais sur l'intelligence et l'ambition, on pose le crayon. Vous voyez que cet état mental nous conduit à prendre des décisions qui sont complètement erronées. Il n'y a pas de justification. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appelle Maria, elle a 3 sur 10 et 8 sur 10. Voilà, je voudrais juste terminer. Là, je vous rassure une minute. Puisqu'on a entendu parler de sensations extracorporelles, le fait que certains sentent leur âme ou psyché, selon que l'on veuille utiliser un terme sacré ou profane, sortir et voir ce corps. Vous voyez, cette sensation que l'on peut donc qualifier d'extracorporalité. Voilà un peu l'exercice que l'on a conduit. On a demandé à des étudiantes de porter un bras en caoutchouc. Donc c'est un bras surnuméraire, un troisième bras. Leur bras droit, par contre, était placé dans une écharpe. Et tous les jours, elles viennent nous voir et elles mettent leur bras, le bras réel, de l'autre côté d'un séparateur. Vous voyez, le bras virtuel est là, et là, c'est le bras réel, le bras gauche. Et ce que l'on vient faire tous les jours, c'est caresser l'index avec un pinceau. L'index de la main réelle et l'index de la main virtuelle. Mais sur la main réelle droite, on lui caresse le pouce. Et donc la première fois qu'on fait ça, elle nous regarde et on lui caresse l'index, ici l'index. Et elle nous dit, c'est très bizarre, j'ai l'impression que vous me caressez le pouce, ma main virtuelle. Alors qu'on lui caresse en fait l'index. Mais ce qui est intéressant, et pour nous, je vais vous expliquer après qu'on a dû arrêter la recherche, eh bien c'est que plus elle vient cette personne tous les jours, et au bout de 10 jours, quand vous lui caressez l'index ici et son vrai pouce, vous lui caressez le vrai pouce, elle vous dit « Ah non, non, là je sens évidemment, vous me caressez l'index. » Donc cette main en caoutchouc a été intégrée et fait partie prenante du corps de cette personne. Pourquoi a-t-on arrêté les expériences ? Donc là, vous voyez, un sentiment d'intégration d'un objet qui est complètement inerte et artefactuel, qui a été incorporé dans le cerveau, puisque elle vous regarde, vous lui caressez le doigt, l'index de cette main en caoutchouc, et elle sent effectivement vous lui caresser l'index. Pourquoi a-t-on arrêté cette expérience ? Eh bien parce que ici, on a mesuré le système immunitaire de cette main droite. Le système immunitaire était effondré. C'est-à-dire que si cette personne, vous lui enfoncez une petite épine d'un rosier, elle vous fait une infection, vous coupez le bras. Si elle avait une cellule qui se divisait de façon anarchique, c'est un début de cancer. Parce que le système immunitaire est complètement mis au niveau le plus bas. Donc vous voyez ce qui se passe quand vous dites à quelqu'un, t'as 65 ans, tu rentres chez toi, tu sers plus à rien, tu prends ta retraite. Eh bien, c'est pas la main droite, c'est tout le corps qu'on néglige, vous voyez? Voilà. Donc Goethe nous a dit déjà, traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être grâce à cette reconfiguration de nos circuits en permanence. Et je termine juste pour vous rappeler que il y a ceux qui cherchent la vérité et qui doutent. Ce sont les plus rares. Ça devrait être nous. Ceux qui s'en fichent, ce sont les plus heureux. Et ceux qui la possèdent, ce sont les plus dangereux. En tout cas, ce n'est pas ma position. Voilà, merci.
Canal Academy vous a proposé cette retransmission de ce deuxième colloque intitulé « Les états modifiés de conscience ». Vous avez pu écouter l'intervention de Pierre-Marie Liédot, membre de l'Académie européenne des sciences, directeur du laboratoire de recherche Perception et mémoire à l'Institut Pasteur et du laboratoire Gènes, Synapses et Cognition du CNRS. Son intervention portait autour de la relation entre les neurosciences et les états modifiés de conscience.